Bonjour, je suis là pour combien? La 51e fois. Avec vous, et c'est toujours avec plaisir. Et je vous redis, vous qui ne me connaissez pas, si je dis des choses et vous ne comprenez pas mon accent ou quelque chose, il faut d'abord me pardonner comme ces dames-là. Et après, demander la grâce de Dieu pour qu'il donne, non pas la chance, la grâce de me comprendre. Mais vous pouvez aussi me poser les questions. Me dire, j'ai rien compris comme le petit là ou la petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bon, mon français est assez médiocre. Nous allons parler de l'islam ce matin. Et comme Aimé a bien dit, on ne va pas parler de l'ennemi. Les musulmans n'est pas notre ennemi, pour que ça soit clair. Je parle des musulmans pour qu'on puisse nous mieux comprendre, mieux partager l'amour de Jésus avec nos amis. Et quand je dis nos amis, je ne le dis pas comme ça non plus. Parce que même si on est d'arrière-plan très différent, nous pouvons être amis. Et je ne vais pas jusqu'à dire frères, parce que nous ne le sommes pas. Hein, il faut que ça soit clair non plus. Comme je ne suis pas frère de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qu'il soit protestant, qu'il soit catho, qu'il soit musulman, qu'il soit hindou, s'il n'est pas dans la même famille que nous, il ne peut pas être notre frère. Ça, c'est clair. Mais on peut être ami. N'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le même père. Celui qui a Satan comme père ne peut pas être mon frère. Parce que j'ai choisi un jour, j'ai été sauvé par le Seigneur, par Dieu. Il est mon père. J'ai été adopté dans sa famille. Et nous allons en parler un peu ce matin. Au lieu de pendant cette culte, de regarder les croyances ce que font les musulmans pour démontrer sa bonne foi, etc., etc. Je voudrais que nous regardions en tant que chrétiens ce matin, et quand je dis chrétien, je vais l'éclaircir à chaque fois que je le dis au départ, un chrétien, c'est celui qui est une relation personnelle avec le Seigneur, qui le connaît et qui est connu par Dieu. Il y a une grande différence. Beaucoup d'entre nous, on a une connaissance de Dieu, mais est-ce que lui, il nous connaît? Parce qu'il dit dans la parole qu'il y aura un jour où beaucoup diront, Seigneur, Seigneur. Il va dire, mais je ne vous connais pas, même si vous avez fait des miracles à mon nom. C'est une question d'être connu par Dieu aussi, d'être, parce que ce qu'on fait souvent, on accepte le Seigneur sur nos conditions. Seigneur, bon, je vais donner ma vie à toi, mais tu touches pas à certains aspects de ma vie. Alors là, c'est pas vraiment se donner au Seigneur. Une femme qui se marie avec un jeune homme va pas dire, bon, je me marie avec toi, mais je vais garder mon copain d'il y a 3 ans, etc. Non, ça marche pas, non. Où est-ce que ça marche chez vous? Non, ça marche pas. Quoique, on a des gens qui le font. Mais c'est pas de vrai mariage, ça, ce sont les arrangements. Mais nous allons regarder un peu ce que nous avons en Christ, et en Dieu, que nos amis musulmans n'ont pas. On va voir ce que nous dit la Bible, qui a la parole de Dieu qui n'est pas corrompue, qui est comme elle est depuis le départ. Faut que ça soit clair aussi. Et nous allons lire quelques versets en Éphésiens, chapitre 1. À partir de Éphésiens 3, du verset 3, Éphésiens 1, du verset 3. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, fassions une étude de temps à autre, qu'on cherche tous les versets qui parlent de notre vie en Christ, ce que nous avons en Christ, juste pour l'apprécier un peu mieux, de nous rendre compte de ce que nous avons. de la part de Dieu. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il y a les prédicateurs qui en parlent pendant des semaines, que de ces versets-là. Et quand il dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas une question de parler d'une Père charnelle, hein, comme moi je suis le Père de mon fils Adrien. Non. Il n'y avait pas de relation, comme disent certains musulmans, entre les relations sexuelles entre Dieu et Marie, qui a donné comme fruit Jésus. Nous y croyons pas, pour nous c'est quelque chose de terrible. C'est aussi terrible pour nos amis musulmans, d'y penser même. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Mais il y a cette relation spirituelle, c'est une révélation de Dieu d'une autre façon à nous-mêmes. On ne va pas beaucoup entrer dans cela maintenant. Je continue, verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Christ Jésus. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. C'est pour ça que Dieu nous sauve. Pour la gloire de sa grâce, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour ça qu'on est chrétien. C'est pour ça que nous vivons notre vie de chrétien. C'est pour glorifier Dieu, pas pour chercher sa faveur. Si je donne ce que je donne à l'Église, c'est pas pour acheter quelque chose de Dieu ou acheter sa faveur, c'est de montrer un peu mon amour. C'est pour le glorifier. La collecte sert à ça. Il faut peut-être le regarder d'une autre façon. C'est pas la quête. C'est une façon d'adorer. C'est une façon de dire, Seigneur, je t'aime, donc je te donne aussi ce que tu m'avais donné en avance. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Par son sang. Pardonnés de nos fautes. Conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre en exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Tout réuni. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il faudra qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse, qu'on prend point par point. Parce que dans ces quelques versets, il y a aussi beaucoup de réponses aux objections que nous avons de nos amis. Par rapport au Seigneur, par rapport au salut, par rapport à sa mort. Parce qu'il nous a rachetés par son sang, pas par mes efforts. Il y a une grande différence. Nous ne pouvons rien faire pour mériter la faveur de Dieu, sauf nous rendre à lui. Il y a le geôlier qui demande à Paul et Silas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Faire, vous voyez, on aime ça. Et on lui dit, non, non, tu peux rien faire, c'est déjà fait. Comment? Crois et vous serez sauvé. Mettez votre confiance en lui, parce qu'il a tout fait à la croix. Non, mais regardons maintenant avec les quelques minutes que nous avons, pas mal de choses. Et je vais essayer de suivre ce que j'ai devant moi pour ne pas prendre trop de temps parce que je peux facilement dériver. Vous me connaissez maintenant. Purification. Nous avons la purification en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, celui qui connaît le Seigneur véritablement. Parce que nous comprenons en tant que chrétiens maintenant que nos péchés nous séparent de Dieu, n'est-ce pas? Le péché nous suit. Et ça, en tant que nous avons tant que nous avons le péché dans notre vie, on est souillé, on est sale, on est malpropre spirituellement devant Dieu. Et nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu. On a compris ça aussi quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça crée une distance entre nous et Dieu. Nous l'avons compris. La Bible nous donne Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Hein, c'est clair. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit là. Mais nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que on reste pas séparés de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé le jour où je confesse mes péchés au Seigneur? Il me lave, il me nettoie, il me purifie de mes péchés. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il utilise plutôt l'image de couvrir nos péchés. Hein? Il couvre la honte. Parce qu'en commettant un péché, on fait déshonneur à Dieu. Faut que ça soit clair. On le fait toujours. Quand vous faites des de bêtises, c'est pas rien. C'est qu'on déshonore Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Faut que ça soit clair. Ce n'est pas rien de commettre un péché dont on a entendu parler tout à l'heure. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vu, il nous a lavés par le sang de Jésus. Ces péchés n'existent plus. Il ne les couvre pas seulement, il les efface. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que le péché, ça crée aussi des barrières entre nous. N'est-ce pas, madame? On a entendu tout à l'heure, si on ne pardonne pas, c'est un péché, ça crée séparation. Dans les familles, partout. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quel privilège que nous avons en tant que chrétiens de savoir que lui, il n'est pas mort pour rien, parce qu'il est mort. Il est mort. Et son sang nous purifie de tout péché. Nos amis musulmans ont le même sentiment d'être souillés, d'être devant Dieu. La question de honneur, déshonneur, honte est très fort, pas seulement chez eux, mais dans beaucoup de cultures. Je pense que parmi nous aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui joue dans pas mal de cultures, n'est-ce pas? Où la honte, c'est quelque chose de fort. Je préfère raconter une histoire pour sauver ma face. Ou pour sauver l'honneur de ma famille, au lieu de dire la vérité. Alors je commets plutôt un péché pour sauver l'honneur. Vous connaissez ça? Hein? On ne va pas entrer dedans, mais c'est un peu cela qui est actuel dans ce milieu aussi. Ils croient ils doivent être propres pour que Dieu entende leurs prières. On ne peut pas aller auprès de Dieu comme nous. Il faut se laver, il faut laver les mains, les pieds, l'oreille, narine, la tête, mettre de vêtements propres avant d'aller prier, de regarder tout droit pour pas qu'il y ait une femme qui passe, parce que quand il y a une femme qui passe, il faut recommencer. On n'est plus propre. Voyez, c'est ce sentiment de pureté est très fort. Il faut être pur avant de s'approcher de Dieu. Et après, il y a des rituels. On fait tout. S'il n'y a pas d'eau, on prend le sable. S'il n'y a pas de sable, on prend une pierre. Mais il faut un lavage rituel pour nous rendre acceptables devant Dieu. Parce que nous avons tous envie d'être acceptables devant Dieu. Là, ils le font de cette façon-là. La question que nous pouvons poser, mais votre esprit, votre cœur, ce qu'on voit pas, est-ce qu'il est pur là? Ou est-ce qu'on s'approche de Dieu avec le corps, comme dit le Seigneur, comme un tombeau qui est bien blanchi à l'extérieur, mais à l'intérieur pas de si propre, comme un ustensile, un bol propre à l'extérieur, mais dedans, et c'est un point de discussion, de connexion, de pouvoir parler de cela. Alors, ils le font pour être acceptés par Dieu. Si nous prions, pourquoi est-ce que nous prions? Beaucoup d'entre nous prient, nous prions parce que c'est un rituel aussi. Je me lève le matin, notre Père qui est aussi, et je continue. Je vais manger, Seigneur, et le soir, la même chose, on a nos rituels. Et ce n'est pas forcément mauvaise, hein, ces habitudes. Mais il faut que, quand nous prions, que ça vienne de notre cœur, que nous parlons avec Dieu parce qu'on l'aime. On le glorifie par nos prières. Le moment que vous faites vos prières par habitude, mieux vaut vous arrêter. Parce que ça sert à plus rien. Vous pouvez rien mériter si vous priez, parce que vous avez peur que si vous priez pas ce matin, le train va être en retard et le patron va se fâcher pour rien, etc. Alors on prie pour éviter ça. C'est pas la bonne raison de prier. Dans ce cas-là, nous nous mettons sur le même niveau que ceux qui se purifient à l'extérieur pour s'adresser à Dieu. Le sang de Jésus nous purifie totalement. Et ça nous rend la voie accessible vers Dieu. Pour les femmes, pendant un quart de votre vie à peu près, vous n'avez pas le droit, en tant que musulman, de vous approcher de Dieu. Parce que vous n'êtes pas pur jusqu'à ce que la ménopause arrive. Avec notre Dieu, on peut s'approcher de lui à n'importe quel moment, tant que notre cœur est purifié. Nous avons l'assurance du salut. Et quand nous disons l'assurance, nous avons l'assurance du salut, ce n'est pas par arrogance, mais c'est parce que Dieu le promet, parce que c'est Dieu le dit, c'est Dieu qui le dit. Et moi, je peux rien dire contre la parole de Dieu. Ce sont ses promesses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse peut-être pas et qu'il a probablement ou peut-être la vie éternelle. C'est comme ça dans votre Bible aussi? Qu'est-ce qu'elle dit? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Dieu. C'est clair, non? C'est rassurant, non? Avez-vous déjà cru au Fils de Dieu? Est-ce que vous avez déjà cette assurance qui vit en vous? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est Romains 10, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est Dieu qui le dit par la bouche de Paul. Nous, en tant que chrétiens, nous avons l'assurance du salut quand nous mettons notre confiance en Dieu. Je le redirai et je le redirai. Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble. C'est pas que Dieu nous ressuscitera et il nous fera asseoir. Pour Dieu, ce qui s'est fait, hein? Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est notre position. On n'est pas les petits dieux. Faut que ça soit clair. Mais positionnellement, nous sommes avec le Seigneur au ciel déjà. Vous voyez pourquoi c'est tellement important que ça se voit? Parce que si quelqu'un me dit que moi je suis assis avec le Seigneur dans le ciel et ma vie est plutôt infernale, ça n'a pas de sens, non? Hein? C'est des... Bon, je ne veux pas entrer dedans, vous savez ce que je veux dire. Nous sommes là afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Le Dieu d'Islam ne connaît pas la grâce. Il ne sait pas que ce mot existe. Mais notre Dieu est la grâce. C'est un Dieu de grâce. C'est pour ça que quand on ouvre la Bible, on voit que la grâce de Dieu soit avec vous. Depuis le départ jusqu'à la fin. La grâce de Dieu. Qu'on reçoit ce que nous ne méritons pas. Mais Dieu fait tout. Quand un chrétien meurt, on est triste parce qu'il y a la séparation. Hein, en tant que famille chrétienne qui reste, mais il y a aussi cette joie de savoir qu'on va se revoir. Pas mal, hein? Il y a la certitude. Si nous savons que lui, il est sauvé, elle, elle est sauvée, moi je suis sauvé, on va se revoir. Parce que le Seigneur nous donne cette certitude. Qu'ils n'ont pas, ils ont une crainte terrible pour la mort. Ils ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après. Parce qu'ils ont affaire avec un Dieu qui est capricieux. Qui ne peut pas décider ce qu'il veut faire avec. Pourtant, il croit à la prédestination. Que ce, dans le sens de la fatalité, Inch'Allah, c'est pour ça que moi je dis jamais Inch'Allah. Pour moi c'est blasphématoire pour un chrétien de dire Inch'Allah. Ça ne signifie pas ce que dit Pierre quand il dit il faut pas dire demain je ferai ceci et cela, mais il faut dire que par la, si Dieu le veut, Inch'Allah n'a pas la même signification. Inch'Allah est lié à la fatalité. Si ce Dieu-là, loin de moi, décide que ça lui plairait, alors nous disons si Dieu le veut. Vous voyez la différence? En français, on peut bien faire la distinction. On a affaire avec un Dieu qui ne joue pas avec nous et qui est très clair dans ce qu'il dit. Ces pauvres, ils souffrent avec un Dieu qui ne sait pas encore ce qu'il va faire parce qu'ils disent qu'il n'est pas lié par ses promesses non plus. On ne peut pas le lier à tout ça. Il est trop loin, trop grand. On ne peut pas le faire. Notre Dieu dit qu'il n'est pas un menteur et qu'il tient ses promesses. C'est pas bien? Alors, encore plus de raisons de prier pour nos amis qui sont dans cette religion-là. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive. Tout ce qu'ils font, c'est pour essayer d'atteindre le paradis. On va parler un peu plus de ça peut-être cet après-midi, la notion de péché, etc. Mais ils n'ont pas de certitude. ils n'ont pas de certitude. Même s'il est le meilleur des musulmans, il n'a pas de certitude. Mahomet n'a pas de certitude. Le seul qui a la certitude, c'est celui qui va se faire tuer dans djihad, qui meurt pour l'islam. C'est le seul qui peut dire « j'irai au paradis », parce que le seul qui a cette promesse-là. En tant que chrétien, nos noms sont inscrits où? C'est inscrit, c'est fait. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. C'est le livre de l'Apocalypse 21. Le chrétien est réconcilié avec Dieu. On est ennemi de Dieu. On n'est pas chrétien. Même si on a les parents fantastiques qui sont les meilleurs chrétiens de l'Église. Et quand toi tu n'es pas chrétien. Moi j'ai dû accepter le Seigneur comme sauveur quand j'avais 9 ans. Issu d'une famille chrétienne ou christianisée, pour faire la distinction. Tout ce qui est christianisé n'est pas chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Hein? Oui? Il faut vous en rappeler, je vais le redire si vous ne me répondez pas. Mais on est né ennemi de Dieu, mais le Seigneur Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Et c'est à nous d'accepter cette réconciliation pour nous personnellement. Ça n'arrive pas automatiquement. Pas automatiquement. Si tu vas en enfer, ça sera ta faute, même si tu passes ta vie dans cette salle. C'est aussi clair que ça. J'ai dit aux jeunes hier soir, on ne garde pas une Mercedes dans le garage Citroën ou quelque chose en face, et le lendemain, on vient chercher un Citroën. On va toujours retrouver le Mercedes. Vous voyez ce que je veux dire? On peut entrer pêcheur ici, mais si on reste pêcheur, il n'y a que le Seigneur qui peut faire la transformation, qui peut nous changer de pécheur en enfant de Dieu. Mais notre nom est écrit dans le livre de vie et nous sommes réconciliés avec Dieu. La Bible dit, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est pour ça que la résurrection de Jésus est pas moins intéressante, pas moins importante que sa mort à la croix. Les deux vont de pair. Sa mort, pas de résurrection. Pas de résurrection sans la mort de Jésus. Vous voyez, dans ces versets, on a les deux ensemble. Et c'est par sa résurrection qu'il nous donne la confirmation qu'il y ait la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Il faut que je reprenne. Car, plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Hein, Paul écrit aux chrétiens là, et nous avons obtenu la réconciliation. Quelle joie! Et ils n'ont pas cette joie-là. Il y a beaucoup autour de nous qui n'ont pas cette joie-là, parce qu'ils croient qu'il faut se battre jusqu'à la fin, et pour enfin voir si on a choisi la bonne voie. La Bible dit, il faut le savoir déjà, et elle dit que c'est possible de le savoir déjà. Aucune de ces promesses se trouve en islam. Vous pouvez scruter le Coran, les hadiths, tout, vous n'allez pas trouver ça dans le Coran, dans l'islam. Ils n'ont pas ces promesses-là. Les chrétiens ne sont plus sous la loi du péché et de la mort. ils sont libérés de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Marcher selon la chair, c'est quoi? Je suis sûr que votre pasteur a déjà prêché là-dessus. Hein? Marcher selon la chair, ça veut dire quoi? Voilà. Selon mes propres désirs. Ma nature pécheresse. Mais on marche selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? C'est plus la loi qui décide si je suis sauvé ou pas. Comme chez les musulmans et d'autres religions, même protestantes. Ou dans le protestantisme, les gens qui prêchent cela. Tu verras un jour, et si tu ne marches pas selon la loi, tu as peu de chance d'aller au ciel. Il dit ici, c'est plus la loi qui décide. La loi me montre toujours l'énormité de mes péchés. Mais elle ne peut plus me condamner en tant qu'enfant de Dieu. Parce que je suis sauvé par la grâce de Jésus. Mais elle me montre toujours ce que Dieu attend de moi. Et si je vis une vie correcte, ce n'est pas pour mériter ma place au ciel, c'est parce que j'y suis déjà. Je ne peux pas être assis avec Christ au ciel, comme j'ai dit tout à l'heure, et vivre comme un hors-la-loi, non? Ou est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Pas en regardant la Bible. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai écrit là? Excusez-moi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous marchons avec le Seigneur. Et nous marchons par sa grâce. Mince. Comme nous sommes réconciliés, nous avons en Jésus la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. C'est tout court, c'est très clair, ça ne demande pas d'explication. Nous sommes donc nés de nouveau. Vous êtes d'accord? Quand nous devenons chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Notre ancienne vie est passée. On est de nouvelles créatures. Mais je ne vais pas lire 2 Corinthiens 5. Je vais prendre un autre verset. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. Il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. Vous voyez l'importance de la résurrection. Chez les musulmans, ça n'existe pas, ce truc d'être né de nouveau. Ils ne savent pas ce que cela signifie. Parce que chez eux, il faut continuer dans ce chemin de servitude et de désespoir. Et nous devons être membres de la famille de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et nous sommes tous frères et sœurs. Vous voyez, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre des musulmans dans ce sens. C'est justement le fait que eux, ils ont la notion de famille. N'est-ce pas? Et il y a l'Ouma, qui est le corps. Tu tapes un musulman à Paris et ils vont brûler des voitures en Cisjordanie. Vous voyez? parce que j'ai touché à un frère. C'est pour ça que ça arrive, ces choses qu'on ne comprend pas toujours. C'est qu'on touche au corps. Et quand il touche au corps, il a mal partout. Et quand je lis la parole de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, on est censé être mieux que ça. Nous faisons partie du corps de Christ. Mais c'est très difficile, surtout dans l'Occident, de voir cette unité, de voir cette idée de corps entre les chrétiens. Nous en parlons, mais je me fiche largement s'il y a une sœur qui est malade ou qui n'a pas assez à manger, il faut qu'elle s'en occupe. Voyez, chez ceux qui ont cette idée de corps, de famille, ils vont s'occuper de cette personne-là. Où on utilise le système, si on ne peut plus utiliser le système, là, il faut que la famille prenne en charge. Nous pouvons apprendre un peu comment vivre ce corps de Christ d'une façon pratique chez les musulmans. Nous sommes nés de nouveau. Eux, ils ne connaissent pas cela. Ils ne connaissent pas Dieu le Père. Parce que quand on est né de nouveau, nous recevons Dieu comme Père. Les musulmans ne peuvent pas parler, ne veulent pas parler de cette façon de Dieu ou d'Allah. Parce que ça l'abaisse. Il est trop grand, il est trop uni, il est trop formidable. Il ne va jamais venir marcher avec nous. Il ne va jamais permettre à ce qu'on parle de lui comme Père, comme Jésus nous enseigne, quand vous priez notre Père qui est aux cieux. Ils ne connaissent pas ça. Il s'appelle Allah, qui veut dire le Dieu. Et on lui donne 90 noms merveilleux, disent-ils. Mais il n'a pas de prénom. Mais il n'est pas Père. Parce qu'il est un, il est seul, il est unique. Il n'y a personne comme lui, il n'y a rien qui peut comparer avec lui. C'est un Dieu seul. C'est un Dieu seul, le pauvre. Notre Dieu n'est pas seul parce qu'il vit en nous. C'est pour ça que nous ne devons pas être seuls non plus. Il faut qu'on soit en famille. Et quand on est seul dans notre appartement, de savoir le Seigneur est avec nous, avec moi. Et ça porte beaucoup de personnes dans ces conditions-là. Nous connaissons l'amour inconditionnel de Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu s'il n'y a pas d'amour. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est frappant, n'est-ce pas, quand il parle de son amour, quand il parle de tout ça. On trouve cette expression, le Fils, à tous les coups. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être délié et désuni du Fils. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je n'ai pas besoin d'en parler, non? Selon le Coran, l'amour de Dieu est toujours conditionnel. Il parle de temps à autre de son amour, mais son amour est conditionnel. Si tu pries avec les mains sales, Dieu ne t'aime pas. Si tu ne donnes pas le zakat, Dieu ne t'aime pas. Si tu ne pries pas 5 fois par jour, Dieu ne t'aime pas. Voyez? C'est un Dieu qui n'aime pas. C'est pas agréable, ça. Il va t'aimer le moment où tu fasses 1, 2, 3, 1, 2, 3 selon sa cadence. C'est différent de Dieu qui nous aime inconditionnellement. Il m'aime en tant que pécheur déjà. Il m'aime en tant qu'enfant de Dieu. Et parce que nous, on n'est pas parfait, on peut toujours trébucher, on peut toujours commettre des péchés, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous êtes parfait? Moi, je ne suis pas. Mais j'ai cette certitude que Dieu m'aime toujours. Et tout ce qu'il demande de moi, c'est de me retourner vers lui et de demander pardon en continu. Parce qu'il a toujours les bras grands ouverts. Ils n'ont pas de père. Nous en avons un. Je vais sauter une ou deux. Les chrétiens ont confiance et assurance en Dieu. Vous avez confiance en Dieu? Vous êtes sûr? Alors, il ne faut plus vous plaindre quand le gouvernement, et le gouvernement, et le gouvernement. On ne prie pas le gouvernement, on prie Dieu. OK? Il voit chez nous, si nous pratiquons la prière, et il ne nous voit pas souvent, prier. Et quand nous parlons de nos réponses à la prière, ils sont touchés par cela. Ils sont à 99% toujours ouverts à ce qu'on prie pour eux. Parce que nous pouvons nous approcher de Dieu à n'importe quel moment. Alors utilisez ces instants-là. Parce que beaucoup d'entre eux pensent que nous ne prions pas parce qu'ils ne nous voient pas. Prier d'une façon rituelle. Hein? On n'a pas moi, je ne prie pas rituellement. Je n'ai pas de certaines choses que je ne fais pas quand je prie. On nous dit, en tous les cas, il faut fermer les yeux. Hein? Il y a certaines églises qui vont dire qu'il faut que les hommes soient debout, les femmes s'assis. Ou qu'on soit agenouillés, sinon... Mais la Bible ne nous prescrit rien. Que dit David? Je lève les yeux vers les montagnes. Où sont-ils? Par là, peut-être. Non, je lève les yeux. Et il y a les instants où on ferme les yeux. Alors, ils ne nous voient pas. Et quand on prie pour eux, ils voient, ah, mais ils prient. Et il y a, comme je dis, pour qu'ils voient que nous prions. Il faut leur dire que nous prions. On n'a pas besoin de prier en public pour que ça soit accepté par Dieu. C'est bien si nous prions en groupe. Là où il y a deux, trois réunis à mon nom, dit le Seigneur. Deuxièmement, et voir que quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Eux, ils ne savent pas vraiment ce que c'est de parler avec Dieu. Il faut réciter une prière en arabe. Et vous savez, il n'y a que 25% d'arabes parmi les musulmans. Que 25%. Mais il faut lire le Coran en arabe, sinon ce n'est pas le Coran. Il faut prier en arabe, sinon ce n'est pas une prière. Alors, si je ne comprends rien quand je prie, comme les cathos à l'époque en latin, c'est un peu pas trop ça, non? Mais nous pouvons nous adresser, nous pouvons parler avec Dieu. Il faut qu'il voie. Il faut par nos prières pour eux qu'ils voient que nous nous intéressons à eux. Et après, il faut qu'ils voient les réponses et qu'on en parle. C'est un grand témoignage parce que nous avons ce privilège-là de lui parler. Il nous donne la puissance. Il y en a ici qui le connaissent. Moi, j'ai travaillé avec ça, surtout en Afrique, parce qu'en Europe, on a un peu de mal avec ça. Mais le Seigneur nous donne la puissance et le pouvoir sur les mauvais esprits. Si vous n'avez pas encore eu affaire avec cela, ça va être peut-être difficile. Mais ça existe. Et il y a ces signes que le Seigneur nous promet, que nous allons chasser les démons et les mauvais esprits. Il ne faut pas le faire quand vous n'avez pas trop confiance, sinon c'est vous qui allez être chassé par ces gars-là. Et il faut lire le livre des Actes, où il y a un gars ou deux qui voulaient le faire, ils voulaient gagner du sous, et qu'est-ce qui arrive? Ce sont les démons qui se sont sautés sur eux. Et ça arrive toujours. Ce n'est pas seulement une histoire du livre des Actes. Vous qui sommes et qui connaissent tout ça, comme moi, nous savons un peu. Hein? On ne va pas chercher le diable partout. Mais on le trouve souvent dans les lieux surprenants. Mais nous avons cette puissance. Eux, ils vivent avec. Il faut aller voir le marabout. Le marabout travaille main à la main avec le démon. Avec les gris-gris, vous connaissez les gris-gris, qui ne connaissent pas les gris-gris là? Les Français, je pense. Mais nous, les Africains, nous connaissons les gris-gris. Hein? dans toutes ses formes. Et en islam officiel, ça n'existe pas. Mais dans l'islam populaire, parce qu'il y a une grande distance entre le musulman et Allah, il y a un vide. Alors ils essaient de combler cette vide, leurs besoins physiques, leurs besoins personnels, par l'islam populaire. Les amulettes, puis pas mal de choses qu'ils font. Vous avez vu la main de Fatima que beaucoup portent, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'y a pas de chrétienne qui porte ça, parce que c'est pour éviter quoi? Hein? Si on porte la main de Fatima, c'est une main comme ça, avec un œil. Vous connaissez, n'est pas... Soyez pas timide. Hein? C'est pour éviter le sort et le mauvais œil, n'est-ce pas? Alors, il y a tout ça. Le Seigneur nous dit de ne pas jouer avec, mais il nous donne le pouvoir sur tout ça. Mais prions pour ces gens qui sont liés par tout ça. Il faut leur poser des questions là-dessus. Il ne faut pas dire que nous, on sait comment ça se passe. Parce que sur chacun, c'est différemment. Hein, chez les Ivoiriens, ça ne se passe pas comme chez les Congolais. Et chez les Sud-Africains. Et les Nord-Africains, c'est différent, n'est-ce pas? Mais on n'a pas raison d'avoir peur. Mais gare à vous aussi, la vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les cieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 10 à 13. Puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, etc. Et finalement, il nous donne son esprit. Son esprit qui vit en nous, qui nous dirige, qui nous donne la force à résister à la tentation, qui nous donne sa puissance, son aide, son amour, qui nous confirme sa justice. Comme il dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il nous donne l'espérance et puis ses dons. Et on a entendu ce matin, nous avons la parole de Dieu par laquelle Dieu nous parle d'une façon compréhensible dans notre langue. Nous pouvons louer le Seigneur parce qu'il est grand. Il est plus que grand. Il est unique. Et il nous aime et il aime le musulman. Soyez reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous donne. Il ne faut pas avoir la grosse tête, mais vraiment l'humilité devant le Seigneur de dire que en me regardant moi, dire, mais Seigneur, tout ça pour moi? Oui, tout ça pour moi. Tout ça pour chacun d'entre nous. Allons, partageons cela avec ceux qui n'en ont pas. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci parce que tu nous as donné grâce de pouvoir entendre l'évangile et de pouvoir l'accepter comme venant de toi, comme la vérité de Dieu. Aide-nous, Seigneur, de vivre une vie de reconnaissance, de démontrer notre amour et notre relation avec toi par le biais de notre vie, tout en priant pour ceux qui sont en dehors, Seigneur, ceux qui cherchent la paix, mais qui ne trouvent pas parce qu'ils sont sur un chemin de servitude. Ils sont dans les mains d'un Dieu qui les malmène, qui font du n'importe quoi avec eux. Que tu les libères, Seigneur, qu'ils puissent te trouver, qu'ils puissent trouver le refuge en toi et qu'ils puissent s'installer sur le roc qui est le Seigneur. Amen.